Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique. Ce soir, c'est Agathe Mpona et les mains qui est au micro et avec Berry Franklin Loutchaka qui nous donne les nouvelles.
Une délégation du ministère des Mines séjourne au Katanga et précisément à Kolwezi pour évaluer l'application du code minier dans le cadre du projet d'appui au secteur minier. Quels sont les enjeux? Nous en parlons avec Denise Maheo dans quelques instants. Et puis, il y a eu un atelier d'information sur la dette extérieure de la RDC ici à Kinshasa. C'est le FMI qui l'a organisé et Georges Kamoujova revient sur les grandes lignes dans son dossier qu'il nous propose dans la seconde partie de cette émission.
Une seconde partie qui reçoit le patron de Ewabora, Stavros Papayanou, s'entretient avec Jocelyne Moustaou sur un nouveau produit que son entreprise propose au public. Les anciens travailleurs de l'hôtel Caravia sont en colère, Berry.
C'est depuis hier mardi et à la base, ils dénoncent l'attitude des responsables du groupe Lone Moro qui réhabilite l'hôtel Caravia en vue de sa gestion. Ces travailleurs estiment que le groupe Lone Moro, par sa filiale l'hôtel Grand Caravia, décide de mettre fin au paiement de leur salaire. Ils ne comprennent pas pourquoi le nouveau gestionnaire qui les payait depuis plus d'une année y renonce. Parmi leurs revendications, il y a également le paiement de leur décompte final. Et jusqu'à présent, aucune déclaration n'est faite du côté de l'hôtel Grand Caravia.
À Mbujimayi, le Centre d'études pour le développement en Afrique organise un atelier de formation sur la passation des marchés.
À cet effet, une dizaine de délégués des structures et vont dans le cadre du projet Pressar participent depuis hier à cet atelier et durera 2 jours. Cet atelier a pour objectif de doter aux participants des nouveaux outils dans l'exercice de leurs fonctions. Elle vient compléter une autre formation qui est en cours avec les mêmes structures sur la gestion financière. Cette même formation aura lieu à Matadi, au Bas-Congo, au mois de février de l'année prochaine. Et cette annonce était faite hier par un membre de la délégation de cette ONG au sortir d'une audience qui leur a été accordée par la mairie de la ville.
Au Nord Kivu, c'était un atelier sur l'exploitation minière artisanale qui était organisé dans la ville de Butembo.
C'est le projet de bonne gouvernance Promine qui a organisé cet atelier hier mardi. Cet atelier a réuni les services des mines, les exploitants miniers et même les chefs coutumiers de Beni Lubero. L'objectif était, selon les organisateurs, de recueillir les avis des acteurs miniers sur les voies et moyens pour rentabiliser le secteur des mines. Toutes les recommandations et suggestions seront remises au gouvernement central pour une décision en vue de rentabiliser le secteur des mines.
Et ce même atelier, il faut le dire, était organisé aujourd'hui à Kolwezi. Nous y reviendrons. 18 tonnes de piment noir saisis le week-end dernier au poste frontalier de Mahagi sont libérées depuis le lundi.
D'après l'administrateur du territoire du Mahagi, qui cite le responsable de l'Office national de café ONC, les services qui ont procédé à cette arrestation n'avaient pour objectif que de vérifier si le propriétaire de la cargaison était en règle vis-à-vis de l'ONC. Ces produits provenaient du territoire d'Irumu et ils étaient destinés à être exportés vers le Mali.
La nouvelle économique au vu du sujet. Le ministère national des Mines a initié un projet d'appui au secteur minier et depuis quelques jours, une délégation de ce ministère sillonne les provinces minières. Première étape, le Katanga. Quel est l'objectif de cette mission? Nous en parlons avec notre consoeur depuis Lubumbashi, Denise Maheo. Vous êtes en ligne, bonsoir.
Bonsoir Agathe Mpona. Vous l'avez dit, la délégation du ministère national des Mines a démarré ses consultations par Lubumbashi au Katanga. Et c'est ce mardi qu'elle s'est rendue à Kolwezi pour le même travail. Il s'agit pour les membres de cette délégation de récolter les avis des acteurs sur terrain dans les secteurs miniers ainsi que ceux de la société civile sur l'application du nouveau code minier. D'après le coordonnateur national adjoint du projet d'appui au secteur des mines, Promine en sigle, et chef de la délégation, le nouveau code minier souffre de la non-application. Le secteur minier en RDC, qui représente le secteur moteur de croissance, ne joue pas convenablement son rôle, a déclaré l'EMS Kamwali.
À l'issue des consultations de Kolwezi, le constat est que le code minier n'est pas réellement appliqué. Quels sont les problèmes concrets qui ont été soulevés au cours des consultations là même à Kolwezi, Denise?
Ah oui, à date, l'EMS Kamwali, coordonnateur national adjoint du projet Promine, a indiqué que les acteurs du secteur minier à Kolwezi ont évoqué plusieurs problèmes qui montrent que le nouveau code minier est constamment violé. Ils citent comme exemple le non-encadrement des faiseurs artisanaux, la perception des impôts et des taxes sur les activités minières par l'État n'est pas facile, mais aussi les opérateurs miniers évoquent les tracasseries administratives. Des problèmes environnementaux liés aux activités minières ont également été évoqués.
Et Denise, étant donné qu'il faut proposer des solutions pour permettre au projet Promine de démarrer, qu'est-ce que Colwezi a proposé comme remède?
Pour l'EMS Kamwanya, on n'est pas encore au stade des solutions. Sinon, Colwezi a fait quelques recommandations qui seront prises en compte lors de l'élaboration définitive du projet Promine. Des recommandations notamment sur l'encadrement du secteur minier artisanal, sur le respect des mesures environnementales et sur l'amélioration des conditions de vie des populations.
Et comment alors réagissent les acteurs de terrain, par exemple les creuseurs artisanaux, comment ils réagissent, Denise?
Les creuseurs artisanaux voudraient voir l'État congolais leur octroyer des concessions propres à l'artisanat, de leur doter des laboratoires qui permettront de les départager avec les comptoirs d'achat en cas de discussion sur la teneur des minéraux et de favoriser la sous-traitance par des Congolais. Et pour terminer, à Dafoupona, il faut dire qu'après le Katanga, les consultations du ministère des Mines vont se poursuivre en Boujimaï dans le Kasaï oriental.
Merci Denise Maéo pour toutes ces informations.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Lushaka.
L'unique information internationale, c'est First Quantum Minerals qui a signé hier un accord non reversible avec BHP Billiton.
L'entreprise acquiert les opérations de nickel de BHP Billiton dans l'ouest de l'Australie pour un montant de 340 millions de dollars américains. Côté à la bourse de Toronto, First Quantum compte y produire 39 000 tonnes de nickel ces 5 prochaines années. Le projet prendra 32 ans. Il y a juste 2 semaines, Agathe, First Quantum venait d'acquérir l'entièreté du projet minier de Kiwara en Zambie pour un montant de 260 millions de dollars. Kiwara contient des réserves de cuivre estimées à 11 millions de tonnes, soit 7 fois plus que les réserves de rejet de cuivre de Moussonoï à Kolwezi. Moussonoï, où le Canadien First Quantum a vu son contrat de sa filiale KMT résilié par le gouvernement congolais, une résiliation qui serait en cours des pourparlers selon des sources proches de l'entreprise.
Merci Brody, Franklin Loutchaka.
Éco d'économie, le dossier.
Le représentant résident du FMI, Samir Jaja, a tenu un atelier d'information cet avant-midi avec la presse. Club de Paris, allègement de la dette, programme FMI RDC, des informations ont filtré. Georges, pouvez-vous nous dire aujourd'hui à combien s'élève la dette extérieure de la RDC et à qui la RDC doit-elle de l'argent?
Voilà, vous posez beaucoup de questions en même temps. Aujourd'hui, sachez que cette dette s'élève à 13 milliards de dollars. Il faut savoir que ce montant, la RDC le doit à plusieurs partenaires ou bailleurs de fonds. Premièrement, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement à qui la RDC doit près de 5 milliards de dollars. Ensuite, le Club de Paris, dans lequel on compte principalement les États-Unis, la France, la Belgique, le Japon, et à qui la RDC doit 6 milliards de dollars. Et puis, la dette commerciale qui est due à quelques banques internationales et qui s'élève à 2 milliards et demi. Sur ces 13 milliards de dollars, la RDC doit payer annuellement, c'est-à-dire chaque année, 750 millions de dollars. Et ce montant représente le service de la dette due et non en ce qui est effectivement à payer.
Et comment la RDC, Georges, compte-t-elle rembourser cette dette?
Alors, la RDC doit normalement rembourser, je le disais, 750 millions de dollars chaque année, dont 180 millions dus aux partenaires comme les FMI, la Banque mondiale et la BAD. Et c'est cette dette, comme on peut bien l'imaginer, qui est bien lourde à porter et d'où un processus pour tenter de ramener la dette à un niveau remboursable. C'est ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, c'est pas une fierté. Alors, une fois atteint ce point, le stock de la dette envers les partenaires multilatéraux sera donc annulé et le montant dû réaffecté au but budget de l'État. Alors, tout dépendra donc de l'issue du prochain conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui se tient d'ailleurs vendredi prochain. Et en croire Samir Djadja, le patron du FMI en RDC, le FMI va donc se prononcer sur le nouvel accord formel appelé à lier son institution et la RDC pour appuyer le programme économique du gouvernement à la hauteur de 560 millions de dollars et qui seront à date décaissés en 7 tranches et pendant 3 ans comme appui aux réserves en devises de la Banque centrale.
Et Georges, dites-nous, quelles sont alors les conditions pour atteindre ce point d'achèvement?
Pour atteindre ce point d'achèvement et voir ainsi la dette de la RDC envers les institutions de Bretton Woods ou d'autres bailleurs annulés, ben la RDC doit présenter certaines conditions, dont une bonne mise en œuvre du programme du gouvernement, lequel programme sera appuyé par le FMI. La RDC doit assurer une bonne mise en œuvre du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté, qui lui a permis d'ailleurs d'atteindre le point de décision. Et la RDC doit avoir un maintien constant de la stabilité macroéconomique, c'est-à-dire taux d'échange, inflation, et qui ne varie pas trop. L'assurance aussi que l'épargne budgétaire dégagée par l'allègement devra être affectée aux dépenses relatives à la lutte contre la pauvreté. Et la RDC doit pouvoir donner aussi d'autres assurances, notamment que seul le GDEP, l'Office de gestion de la dette publique et le ministère des Finances devront désormais gérer les questions relatives à cette dette.
Pour finir, Georges Kamoudjova, peut-on être sûr que la RDC atteindra le point d'achèvement et quand?
Bon, en croire les représentants du FMI, à la première revue du nouveau programme formel avec la RDC, c'est-à-dire dans 6 mois, nous sommes là autour du mois de juin de l'année prochaine, ben, le FMI pourra annoncer que la RDC a atteint le point d'achèvement et les autorités de la Banque centrale présentes à l'atelier d'information semblent optimistes sur cela, mais il faut attendre, c'est pas maintenant qu'il faut répondre à cette question.
Merci Georges Kamoudjova.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Stavros Papayanou, patron de Ewabora Airways. Ewabora a lancé sur le marché aérien un nouveau produit appelé Flying Card. Qu'est-ce que le Flying Card? C'est la question qu'a posée Jocelyne Moussaou au patron de Ewabora.
En fait, le Flying Debit Card, c'est un nouveau produit qui s'adresse à tout le monde d'abord, tant aux particuliers, aux sociétés, aux organismes divers, aux agences de voyage. Et en fait, il y a 3 cartes. Hein. Il y a la carte bronze, il y a le silver et la gold. La carte bronze coûte 10 000 dollars, la silver 20 000 et la gold 30 000. En fait, la carte bronze vous donne un crédit individuel pour une valeur de 11 000 dollars. Donc, vous payez 10 000. Mais vous pouvez acheter des billets pour 11 000 dollars.
Mais ça se passe comment concrètement? Je viens à Ewabora, j'ouvre un compte, je dépose 10 000 dollars, c'est ça?
Oui, dès l'ouverture du compte, et donc on va vous émettre une carte. Et de cette carte-là, immédiatement, vous avez un password à votre carte. Et avec votre carte, vous pouvez directement acheter dans nos agences partout des billets pour 11 000 dollars alors que vous n'avez payé que 10 000. La Silver Card, c'est 20 000 et vous avez droit pour 22 400 dollars de billets. Et la gold, vous payez 30 000 dollars, mais vous bénéficiez de 4 500 dollars de billets. C'est énorme.
Mais donc, c'est ça l'avantage par rapport aux personnes qui achètent directement dans vos agences commerciales.
Voilà. Mais disons que ça s'offre à tout le monde. Hein. Vous pouvez avoir même pour certains commissionnaires, certains protocoles, certaines agences de voyage qui veulent éviter toutes sortes de procédures. Eh bien, directement, elles peuvent acheter la carte. Et avec cette carte-là, eh bien, ça leur permet d'avoir un bénéfice immédiat.
La carte, le compte s'ouvre à Ewabora ou dans une banque?
Non, ça s'ouvre à Ewabora. Hein. C'est mis par Ewabora et directement, vous allez recevoir un mot de passe.
Oui.
Et ce mot de passe que vous allez choisir vous-même, donc, va vraiment vous protéger complètement de toute fraude. Maintenant, si jamais vous avez perdu la flying debit card,
oui.
Il y a un numéro de téléphone qui sera là, à votre portée. Vous appelez directement et immédiatement, votre carte elle est bloquée et nous vous créons directement un autre compte avec le solde qu'il y avait dedans et un nouveau password.
Donc c'est une flying debit card. Est-ce que vous pensez à une flying? Vous pensez aussi à une flying credit card?
Voilà, bien sûr, il y aura des flying credit cards, il y aura de tout.
Ouais, mais donc vous dites que quand un client a sa carte et après vous débitez, quand il dit qu'il veut voyager, où ça se passe, comment, les procédures?
Eh bien, c'est simple, hein. Une fois qu'il a sa carte, dès qu'il veut, par exemple, dès qu'il veut un billet, dès qu'il veut l'émission d'un billet, il va se présenter à une agence Ewabora.
Mm-hmm.
Il va juste présenter sa carte, il dit voilà, je veux un billet pour tel endroit, etc. Prenez sur ma carte, et le paiement, ce sera au crédit de sa carte à lui. Et voilà, et ce sera terminé, comme ça, il bénéficiera, de cette ristourne. En fait, ce sont des ristournes qui sont faites hein, de 3 ordres, de 10%, 12% et 15%. Ça va jusqu'à 15%, donc ça c'est énorme, hein,
mm-hmm.
parce qu'il y a même des agences de voyage qui n'ont pas la possibilité d'avoir une telle ristourne.
Et donc, une société peut avoir une carte, mais l'utiliser pour plusieurs de ses agents?
Absolument, sans problème, et c'est limité, donc il n'y a pas une limitation de temps.
Merci Jocelyne, merci Stavros Papayanou. Écho d'économie, c'est terminé pour ce soir. Agathe Mpona et les mains étaient à la présentation. Merci à toute l'équipe rédactionnelle d'Écho d'économie. Retrouvez-nous sur www.radiocapi.net. Bonne soirée et à demain.